Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Nous sommes en février 2024 et vous écoutez une interview de Proxy Jeux réalisée lors du Festival International des Jeux de Cannes. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis BenoFX et je suis accompagné de Peter. Salut Peter.
Salut BenoFX, comment ça va?
Bah très bien, et toi?
Super.
Premières interviews du salon pour nous.
Tout à
on
fait.
On se chauffe un petit peu.
Ouais.
Et c'est avec plaisir que pour cette première interview, nous accueillons Régis Bonnecé de chez Equinox pour en particulier la campagne participative et la prochaine sortie d'un tout nouveau jeu de cartes à collectionner, Altered. Bonjour Régis.
Bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Régis, si tu devais te présenter en quelques mots pour nos auditeurs et auditrices qui n'auraient jamais entendu parler de toi.
Ben, je suis multicasquette, à la fois une casquette d'auteur, d'éditeur. J'ai longtemps été dans le jeu de société. J'avais fondé la société Libellude.
Ça doit parler un peu
voilà,
aux gens.
Dixit, Mysterium, Diceforge, Season. Et plus récemment, j'ai fondé Equinox il y a 3 ans pour me lancer dans le jeu de cartes à collectionner dont tu citais le nom, Altered.
Voilà. C'est ça. Et on va en parler un peu plus longuement juste après. Mais avant ça, le petit fil rouge. Donc un petit fil rouge où on va te poser des petites questions sur... des jeux un petit peu et
je répondrai Uno à chaque fois, comme ça au moins je me planterai pas. Uno.
Ça marche.
Voilà. Vous êtes prévenus.
Comme on te l'a expliqué, les réponses seront mélangées par rapport aux questions. Du coup, ce sera aux auditeurs d'essayer de deviner quelle réponse va à quelle question.
Quel est ton jeu Madeleine de Proust?
Uno. plus sérieusement, bonne question. Bonne question.
Ah oui, là, ça demande un peu de réflexion.
Ouais, c'est pas simple. Il y a plein de jeux qui me viennent en tête, mais pourquoi celui-là plutôt qu'un autre, à part qu'il est apparu dans ma tête plus tôt?
Ah, c'est le bon généralement.
Non, je vais prendre. Terraforming Mars.
Quel est ton genre de jeu préféré?
Du deck building. J'adore le deck building.
Et quel est ton jeu préféré dans ce genre?
Terraform. Ah non, ça marche pas. je sais pas, un petit Splendor, pourquoi pas.
Très bien. Peux-tu citer un jeu qui se trouve dans la ludothèque mais dont tu as honte?
Donc j'ai honte.
Dans ta ludothèque.
Alors, vous allez rire, mais en fait, j'ai pas de ludothèque personnelle. J'ai toujours acheté pour mes boîtes, et quand je suis parti de Libellude, j'ai plus de ludothèque. Donc, je joue avec les jeux de copains et tout. Donc, dans ma ludothèque, j'ai rien de honteux parce que j'ai pas grand chose. Voilà. Donc, j'ai pas besoin de répondre à la question.
Tu peux dire Uno, hein, toujours.
Uno.
Si tu pars 3 semaines et que tu ne peux prendre qu'un seul jeu de société pour ces 3 semaines, lequel tu prends?
Colon de Catane.
Tu es invité pour une soirée chez des gens que tu ne connais pas. Tu dois ramener un jeu. Lequel?
Allez, Magic.
On en reparlera peut-être un peu après, d'ailleurs. T'avais prévu un méga tournoi de Challenger à 8, et tous tes amis t'ont lâché, et vous vous retrouvez que à 2. Quel jeu tu sors pour 2 joueurs?
Et on va dire Seven Wonders. Allez.
Quel jeu aurais-tu aimé inventer?
Alter, tiens.
Mais quel est donc ce jeu?
À quel jeu aimerais-tu jouer en sortant de cette interview?
Allez, un petit revival, un petit Jaipur.
Ok. Voilà, ça clôt un petit peu le fil rouge, donc on va pouvoir passer à la partie principale de l'interview. Et pour commencer, effectivement, tu l'as dit, tu as été d'abord auteur. Peut-être que nos anciens auditeurs se souviennent d'Himalaya.
Ça date
un petit peu. Tu as ensuite été éditeur chez Libellude. Tu as été auteur-éditeur parce que tu as sorti notamment Seasons et
Diceforge,
ouais. Lord of Xidith qui était une réédition de Himalaya. Ouais. En tant qu'éditeur, tu as sorti, tu l'as dit, Dixit, Mysterium, enfin des jeux qu'on ne présente plus. Et il y a quelques années, tu as un petit peu lâché ça. Tu as revendu, on peut dire, enfin Libellude.
On peut le dire.
Voilà, tu as revendu Libellude pour te lancer dans une toute nouvelle aventure.
C'est ça.
Et fonder une société qui s'appelle Equinox. Alors, qu'est-ce que c'est Equinox?
Equinox, c'est vraiment une structure qui a été uniquement créée dans le but d'éditer Altered, voilà, qui est un jeu de cartes à collectionner un petit peu novateur, parce que j'étais parti du constat que depuis 30 ans, c'est un secteur qui avait peu évolué, il y avait beaucoup de nouvelles licences et tout, peut-être quelques petits éléments de gameplay ici ou là qui changeaient, mais effectivement, dans le concept en tant que tel, il n'y avait pas grand-chose qui avait bougé, Et je pense que c'était le, je pensais que c'était le bon moment pour apporter des nouveautés. Il y en avait plein qui me trottaient en tête, donc en fait j'ai fait un jeu plaisir en fait. C'est-à-dire que j'ai mis tout ce que moi j'aurais aimé de voir dans un jeu de cartes à collectionner. Et ça fait Alterd. Voilà.
Et il y a eu un déclencheur ou c'est quelque chose qui a maturé pendant de nombreuses années et tu t'es dit à un moment bon voilà j'ai ça en tête depuis longtemps où il y a vraiment un petit déclic, un petit élément déclencheur pour
alors,
ça.
L'élément déclencheur, j'en parle souvent, c'est en fait il est venu avec Keyforge. Keyforge, ouais. C'est au niveau technologique. Ça m'a amené en tête que désormais les presses numériques, donc c'est des, en gros des gros photocopieurs Xerox, étaient capables d'imprimer dans une très bonne qualité et à un rythme qui pouvait être un rythme industriel, donc avec une grosse production. Ça signifie quoi? Vous me dites oui super, mais d'habitude on imprimait les jeux de société, les jeux de cartes avec des presses offset, donc des grosses presses qui font que chaque planche ressemble à la planche précédente. Voilà.
Tu peux pas
changer, numérique. Voilà, ça permet que chaque planche imprimée soit différente, donc ça permettait une personnalisation extrême. Et ça, je l'ai vu dans Keyforge. Keyforge, le pitch était de se dire que chaque deck était différent.
Unique, ouais.
Donc moi, dans ma tête, je me suis dit, si on est capable aujourd'hui de faire des decks différents, on est capable de produire un jeu où potentiellement toutes les cartes dedans peuvent
être
différentes. Donc ça a été le point de départ. Et puis ça, je l'avais eu quand j'étais à Libellule. J'en avais parlé à un collègue de l'époque. Je lui ai dit, tiens, qu'est-ce que tu penserais d'un jeu où toutes les cartes pourraient être différentes et tout, avec des changements? Il dit, ah ouais, ok, ouais, ça a l'air chelou et compliqué. Et puis la compète, voilà. Ça avait pas pu durer plus de 10 secondes. Et quand j'ai vendu Libellude, c'était en juillet, c'était le Covid. Enfin, je pensais partir au Japon, je me dis bah non, voilà. Donc du coup, j'ai posé plein d'idées sur le papier et m'était revenue celle de ce qui est devenu Alterd et que j'avais développé un petit peu plus et voilà.
D'accord. Et donc ça, c'était il y a plus de 3 ans. Mm. Donc tu pars avec cette idée, tu quittes Libellude, tu montes Equinox. Mm. Qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 3 ans? Enfin, quelles ont été les étapes? Parce que t'es parti tout seul, t'as eu cette idée. Il a fallu monter une équipe, il a fallu créer le jeu finalement, parce que t'es parti avec une idée, il y avait pas encore un jeu. On sait que, enfin, on sait ou pas, mais les jeux de cartes à collectionner, c'est quand même un gros travail, parce qu'il faut que ça perdure dans la durée, faut que ça se renouvelle, faut que vous ayez déjà, en fait, au moment où ça sort, faut que vous ayez déjà des coups d'avance sur ce qui va arriver après, etc. Donc comment de zéro on crée une équipe pour monter un jeu de cartes à collectionner?
La première chose, c'est d'écrire un pitch. C'est que moi j'ai mis sur le papier toutes mes idées qui me faisaient dire que c'était un projet complet. Et dès que ça a été fait, ma première envie, ça a été de la présenter à tous les grands ponts d'Asmodée que j'avais connus. Il y a notamment Marc Nunes, c'était le fondateur, Stéphane Carville, le CEO, et aussi Jean-Christophe Giraud. Et me dire que si j'arrivais à les convaincre, c'est peut-être que l'idée était pas si conne que ça, et qu'il y avait peut-être quelque chose à faire. Donc c'est ce que j'ai fait. Ils ont dit waouh, super idée. Par contre, effectivement, il y avait beaucoup de freins techniques qu'il fallait lever, parce que c'est un projet très complexe. Et la première chose qu'ils m'ont dit, c'est bah écoute, c'est super, nous on veut bien te suivre après derrière. Par contre, lève les freins techniques, et on s'est dit on se donne rendez-vous dans un an. Donc la première année, elle a été consacrée finalement à lever tous les freins techniques. Donc ça, on était deux. J'avais fait appel à une vieille connaissance, Maxime, pour m'aider un petit peu à étoffer tout ça. Et au bout de 6 mois, on a commencé à recruter les premières personnes, les 6 premières personnes. Fin de l'année, on représente du coup Asmodée qui me disent bah écoute, super, bingo, on te suit, vas-y. Et là, on est une petite trentaine sur les 2 années qu'on suivit, parce que encore une fois, à la fois on développe un jeu de cartes à collectionner, donc ça veut dire beaucoup de game designers, game designeuses, des illustrateurs, illustratrices, directeurs artistiques, tout ce qui fait qu'on peut créer le jeu physiquement. Et bien sûr, le projet, il y avait tout un pan numérique au projet, et ça veut dire recruter toute une équipe digitale, des développeurs, des graphistes, tout ce qui fait qu'on peut développer une app en interne, ce qui fait qu'au final, ça fait pas mal de personnes aujourd'hui.
Alors finalement, l'approche avec Asmodée s'est faite assez rapidement dès le départ du projet, de ce que je comprends. Mais alors, quelle est l'implication d'Asmodée dans le projet? Parce qu'il y a Equinox.
Ouais.
Et Asmodée, c'est quoi? C'est parce que ça sera le distributeur derrière, ou
c'est le distributeur exclusif. Et moi, d'accord, dès le début du projet, j'avais conscience que c'est très très ambitieux de lancer un jeu de cartes à collectionner, et le rôle du distributeur est essentiel. Ça veut dire que si derrière on n'a pas les tuyaux pour distribuer le produit, ça ne marche pas. Et moi, je voulais vraiment que le distributeur soit partie prenante dès le début du projet. Ce qu'on a fait, c'est-à-dire qu'on est allé faire la tournée de toutes les business units en Allemagne, aux États-Unis, en Italie, en Espagne. On leur a présenté le projet, on les a fait jouer, on leur a dit pourquoi le projet était innovant, tout ça, et on a entretenu cette relation, ce qui fait qu'au fil du temps, notre projet est devenu aussi un peu leur. On ne s'est pas ramené au dernier moment en disant, tiens, on a un jeu, est-ce que vous voulez le distribuer? Ils savent pas ce que c'est, ils savent pas comment le faire et tout. Là, ils ont suivi aussi cette campagne Kickstarter qui est en train de se passer, et ils nous témoignent aussi de leur amitié, de leur confiance, de leurs espoirs dans le jeu. Et ça, c'est super important pour nous, parce qu'on sait qu'ils sont aujourd'hui vachement impliqués avec nous pour la réussite du projet.
Et du coup, pour alors nous, on a un public qui est quand même assez tourné jeux de société, jeux de plateau, même si on a des gros joueurs de jeux de cartes à collectionner aussi. Mais du coup, pour ces auditeurs et ces auditrices qui ne connaîtraient pas bien l'univers du jeu de cartes à collectionner, est-ce que tu peux un peu expliquer les spécificités du jeu de cartes à collectionner et en quoi Altered, du coup, on va mal le prononcer, je pense
Altered,
que
c'est ouais, bien. Altered, comme tu veux en fait.
Sur la
française, c'est Altered.
Altered, voilà. Ouais. Altered, en quoi Altered justement vient un petit peu amener du sang neuf dans l'univers des jeux de cartes à collectionner. Ouais.
Bah, je réponds déjà à ta première question. Ouais. Qu'est-ce que c'est par rapport à un jeu de société? En fait, c'est un jeu de société, mais évolutif. Ça veut dire que, contrairement, je parlais tout à l'heure de Seven Wonders, qui est un jeu fini, c'est-à-dire tu joues, t'as une expérience complète. Le jeu de cartes à collectionner, tu vas pouvoir régulièrement acheter des nouveaux petits packs de cartes. Les packs sont aléatoires dedans, et avec ça, venir améliorer tes jeux, en créer des nouveaux, tout ça. Donc tu peux très bien, et je pense que c'est une des forces d'Alter de contenter de jouer avec les starter decks. On propose une expérience qui est quand même vachement consistante par rapport à d'autres jeux de la concurrence. Et après, libre à toi d'acheter ou pas des boosters, d'en acheter beaucoup ou pas. Voilà, ça c'est pour qu'est-ce que le jeu de cartes à collectionner.
Oui. Du coup, si je peux juste rajouter effectivement ce que tu dis. Donc les jeux de cartes à collectionner, pour ceux qui connaissent pas du tout, c'est effectivement, on peut citer Magic, hein, tu l'as cité tout à l'heure, qui est sans doute le plus célèbre des jeux de cartes à collectionner. Donc le principe, c'est de créer des decks de cartes et d'affronter un ou plusieurs joueurs en fonction des modes de jeu. Et effectivement, on va pouvoir acheter plein de cartes différentes. Il y a des extensions qui sortent très régulièrement avec des nouvelles cartes. Et l'idée, c'est de faire le meilleur deck possible pour battre son adversaire.
Ouais.
Et ce que tu disais, c'est qu'effectivement, souvent, les jeux de cartes à collectionner proposent des decks de départ qu'on peut acheter préconçus, en fait, pour commencer à s'amuser. Et effectivement, là, Altered propose aussi ces decks de base, mais avec, tu disais, une richesse de jeu peut-être un peu plus intéressante, et ça peut aussi intéresser des joueurs de jeux de société un peu plus classiques qui peuvent juste acheter des decks de base et déjà commencer à s'amuser avec ça.
Tout à fait, et puis les gens peuvent le tester. Nous, on a prévu plusieurs systèmes pour ça. Board Game Arena, c'est gratos, c'est en ligne, tu peux tester l'entièreté des decks préconstruits. T'as les print and play, donc là tu les imprimes, tu les découpes et tu y joues. T'as Exaltered qui a été développé par un membre de la communauté. T'as plein de modes sur Tabletop Simulator, donc t'as plein de moyens de tester si le jeu il est pour toi ou pas. Quoi qu'il arrive, on prend personne en traite, donc à vous de tester, de vous faire une idée, puis si ça vous plaît, de rejoindre l'aventure, et comme n'importe quel finalement jeu de société, voilà.
Ok, et du coup, les particularités d'Altered, ouais, par rapport aux autres jeux de cartes à collectionner?
Alors, elles sont nombreuses. L'ADN d'Altered, c'était de revenir un petit peu aux fondamentaux de ce que pour moi devait être un jeu de cartes à collectionner. Moi, je reviens, j'étais 13-14 ans, j'étais ado, je découvre Magic the Gathering, et c'était l'époque fabuleuse où on ouvrait un booster, on savait pas ce qu'on allait trouver dessus, on affrontait un deck, on savait absolument pas contre quoi on allait jouer. Et aujourd'hui, forcément, cette époque, elle est un peu révolue, vu que les listes de decks sont connues bien à l'avance d'une sortie. Et quand on joue en compétitif, la personne joue une carte en face de nous, on sait sa decklist quasiment à 100%. Là, l'idée, c'était de remettre de la surprise à la fois à l'ouverture des boosters et aussi durant les parties. D'où les cartes altérées et les cartes aussi uniques. Ça veut dire que ça, c'est des choses, c'est bien des cartes uniques au monde qui vont pouvoir se trouver. Donc les cartes uniques, par exemple, il y en a une tous les 8 boosters qui vont remettre de la surprise au cœur de l'ouverture, parce qu'on sait jamais ce qu'on va trouver, comment on va pouvoir jouer cette carte, l'intégrer ou non dans un deck. Et à la fois, quand on affronte un adversaire, on sait que toujours, quoi qu'il arrive, il y aura au moins 3 cartes qui vont pouvoir créer un petit peu de surprise et sur lesquelles peut-être la personne aura décidé de créer son deck. Donc ça, c'est la première grosse innovation, c'est les cartes altérées.
Voilà, tu parlais des cartes altérées. En fait, il va y avoir des cartes de base comme dans tous les jeux.
Ouais.
Et en fait, elles peuvent être altérées, c'est-à-dire que certaines de leurs caractéristiques, soit leur force, soit leur coût, soit voilà, les caractéristiques de la carte peuvent être modifiées.
C'est ça.
Sur des cartes spécifiques.
Concrètement, comment ça se passe dans un jeu comme Magic, par exemple? Il y a des cartes communes, des cartes peu communes, cartes rares. Elles sont toutes différentes les unes des autres. Nous, en fait, on a des grandes familles de cartes. Elles vont toutes être communes, et ces cartes communes vont être déclinées toutes en 2 versions de rares. Donc là, le coût va un petit peu changer, le pouvoir, il va être un petit peu modifié à la marge. Et le troisième niveau de rareté, les cartes uniques qui vont encore proposer une alternative différente par rapport aux versions communes et rares. Et tout l'intérêt de la construction du deck, c'est que là, un joueur va être limité à 3 uniques maximum. un certain nombre de rares et un certain nombre de commons. Ce qui fait que, quoi qu'il arrive, les cartes communes seront vachement valorisées dans notre jeu, là où dans d'autres, souvent, bah, il y a des cartes qui sont jamais utilisées. Là, globalement, la question que tu vas te poser quand tu vas construire ton deck, c'est cette carte-là, je la veux plutôt dans sa version unique, ce pouvoir est sympa, dans sa version rare ou dans sa version commune. Si je prends celle-là en version rare, laquelle je vais prendre en version commune pour... Donc voilà, c'est une autre façon de voir le jeu de cartes à collectionner, c'est une autre façon de construire son deck. Donc là aussi, sur ce point-là, on apporte quelque chose d'un petit peu différent par rapport à ce qui se fait d'habitude. Voilà.
Carte unique et carte altérée, c'est la même chose, c'est ça ?
Oui, ça veut dire que c'est des cartes altérées. Il y a des cartes altérées qui sont rares et des cartes altérées qui sont uniques. Encore une fois, c'est toutes des déclinaisons de la version commune de la carte sous une autre forme.
Unique, en fait, ça veut dire que l'altération de cette carte-là n'existe nulle part ailleurs. C'est vraiment une carte qui est...
au monde.
Voilà. L'altération-là est unique.
Ouais. C'est ça, ouais.
Et comment a été fait l'équilibrage alors pour être sûr que l'équilibrage tient juste au fait de limiter le nombre de cartes uniques qu'on peut mettre dans son deck et le nombre de cartes de différents types ou
non c'est des algorithmes en fait, ça veut dire que déjà il y a des effets qui ne peuvent pas être combinatoires, ça veut dire dans la matrice on se dit celui-là tel effet plus tel effet c'est pas possible parce que ça fait péter le truc ou c'est trop fort ou c'est trop faible aussi parfois. Et après, on a une deuxième couche dans l'algorithme qui fait que on va générer plein de cartes en fonction de ça. Et après, il y a un deuxième algo qui, parmi ces générations-là, va traiter les cartes, va enlever en fait les cartes qui potentiellement sont trop fortes, potentiellement aussi celles qui sont trop faibles, pour gagner finalement la médiane qui est la plus valorisante. L'idée, c'est qu'à la fin, peut-être, tu vois, si je dois te donner une proportion, il y ait 60 cartes des uniques qui soient vraiment sympas à jouer. Il y en aura peut-être 40% qui seront moins bien. Mais encore une fois, ce qui est important dans un jeu de cartes, c'est justement pouvoir créer du différentiel. Ce qui va être rigolo, c'est que ça crée des cartes qui sont un petit peu plus complexes que les versions communes et rares. Et c'est quand tu vas tomber dessus, c'est te dire, attends, déjà, est-ce que c'est une bonne carte? En quoi elle est bonne? Qu'est-ce qu'elle fait? Voilà, on va vraiment pouvoir de nouveau se poser des questions parce qu'il y aura personne pour te dire si ta carte elle est bonne ou pas vu que t'es le seul au monde à la posséder. Donc ça sera à toi d'avoir les réponses. Et peut-être que selon ton profil de joueur ou de joueuse, tu vas trouver cette carte sympa. Tu vas te dire, moi j'aime bien les jeux fun et tout, et cette carte est très fun et je vais m'éclater à la jouer. Un joueur compétitif, tu diras, oui non, mais celle-là elle est super nulle, j'en veux pas, et vice versa. Donc voilà, ça va être un jeu dans le jeu.
Et tu nous parlais d'un algorithme, alors est-ce que l'algorithme il intervient que pour dégager justement les cartes ou vérifier que l'équilibrage est bien assuré, ou alors il intervient dès le départ même pour créer des cartes, créer des compétences, créer des combos? Ou c'est bien des personnes qui travaillent là-dessus.
Non, on n'en est pas encore au stade de dire tiens, pour nous un jeu, merci. Non,
pourquoi pas.
Ouais, alors je le souhaite pas déjà. Alors après, on verra ce que la technologie nous donnera dans quelques années. Mais moi, je pense que l'humain est très important dans la conception d'un produit, d'un objet culturel. En tout cas, enfin moi, j'y crois très fort. Pareil pour les illustrateurs, illustratrices. Donc non, on a prévu tous les pouvoirs, tout ce qui était possible. On a défini quelles interactions pouvaient avoir lieu, celles qui ne pouvaient pas avoir lieu, comme j'expliquais tout à l'heure. Et après, effectivement, vu que c'est des cartes uniques, ça en fait beaucoup. Là, on ne pourrait pas le traiter manuellement, et ça serait même pas souhaitable. Et là, du coup, la machine est un chouette outil.
C'est une aide, un outil. Ouais,
sachant que c'est nous qui l'avons créé aussi, tu vois. Voilà, non sans galère.
Et vous êtes combien chez Equinox?
On est une petite trentaine pour schématiser. Il y a la moitié de l'équipe qui s'occupe vraiment de créer le produit physique, le jeu de cartes, et la moitié de l'équipe qui s'occupe plutôt de la partie application, donc toute la partie digitale, des programmeurs, des programmeuses, des graphistes, des ergonomes, enfin plutôt UX, UI. Voilà, il y a tous ces métiers-là qui existent aussi au sein d'Equinox.
Donc là, c'était la première originalité d'Altered, c'était les cartes altérées, d'où le nom du jeu, on imagine bien.
C'est ça.
Et tu voulais parler d'une deuxième aussi spécificité du
Alors, il y a toute une batterie de choses autour. La première, ça va tourner autour du QR code. Vous verrez que sur chaque carte du jeu, il y a un QR code qui là aussi est unique. Ça veut dire qu'il y a un identifiant unique sur chaque carte. Voilà. Ça va servir à quoi? C'est-à-dire quand un joueur ou une joueuse vont ouvrir un booster d'Altered, ils vont devoir, grâce à l'application, scanner. Donc on a développé un scan de masse, on ne scanne pas carte par carte, c'est hyper rapide, c'est quelques secondes, pour scanner l'entièreté des cartes de leur booster. Ça fait qu'à un moment donné, les cartes que vous avez en physique, vous les avez aussi sur votre application. Et à partir de là, ça nous a permis de développer tout un tas de services. Le premier, c'est tout simplement de pouvoir créer des decks où qu'on soit, de gérer sa collection où qu'on soit, dans le métro ou ailleurs, Ça, c'est le côté hyper pratique. Tu veux t'inscrire à un tournoi.
Pas besoin de trimballer son classeur de cartes.
C'est ça. Tu veux t'inscrire à un tournoi, bah, t'envoies ta liste de deck, pouf, t'es inscrit et ta liste de deck est automatiquement envoyée. Ça permet aussi de pouvoir faire des échanges de cartes. J'ai un joueur qui est au Japon, moi je suis en France, surtout avec le système des cartes uniques. Tu vois qu'il a une carte unique qu'il a mis à l'échange ou à la vente. Tu dis, waouh, ça c'est super bien, je le veux. Si vous êtes d'accord sur comment vous l'échangez ou vous la vendre, le transfert est fait instantané et ça, et là tu la possèdes chez toi.
Via l'appli du coup directement.
Voilà. Et là tu me diras, bah c'est bien beau, mais c'est un jeu de cartes physique, la propriété juste numérique, c'est pas fou. Deux choses sont permis alors. Bah, si tu veux la jouer tout de suite, tu peux te l'imprimer chez toi et tu peux commencer à jouer avec. Ou après, tu la fais imprimer via nos services de print on demand. Donc ça, c'est aussi un service nouveau qu'on propose. Ça veut dire que tu envoies chez notre imprimeur, celui-là même qui produit le jeu. Donc tu recevras chez toi les cartes de la même qualité que celles que tu aurais pu trouver dans un booster directement chez toi. Donc tu vois, c'est tout un écosystème qui permet aussi quelque part aussi une traçabilité, une fiabilité aussi des échanges. Faut savoir aujourd'hui que il y a énormément de cartes qui sont vendues sur les sites d'échange, soit eBay, Vinted et tout, qui sont des faux. Mmh. Hein, ça faut le savoir. Alors Pokémon, j'en parle même pas. C'est énormissime parce que souvent les gens connaissent pas trop. Ils achètent ça pour les enfants, donc ils s'en foutent un peu. Ils achètent des cartes, mais voilà, c'est des cartes contrefaites. Là, ça, ou alors quand tu commandes chez Card Market, bah tu vois. Est-ce que la carte va pas arriver abîmée? Est-ce qu'on va pas essayer de ton papa outer au bout en disant oui, mais si je t'ai envoyé la carte alors qu'elle est jamais partie? Ça va éviter aussi tous ces écueils-là de rassurer finalement les gens, ta collection, les cartes que t'achètes, elles sont traçables, elles sont légites et voilà.
Et du coup, j'imagine que l'intérêt aussi, c'est de si moi j'achète une carte à un japonais par exemple, je vais pouvoir la faire imprimer en français.
Tu peux aussi choisir la langue dans laquelle tu veux imprimer ta carte, dans laquelle tu veux jouer. Il y a d'autres fonctionnalités aussi. Chaque carte a un QR code, chaque carte a un lore attitré. Alors un lore, pour celles et ceux qui ne savent pas ce que c'est-à-dire on va développer un peu le background, l'histoire de ce personnage qui est présent ou pas. Et tu auras toujours un long texte qui va venir amener à décrire qui est le personnage, qui est rencontré et tout. Donc pour toutes les personnes qui s'intéressent un petit peu à l'histoire, à proprement parler du jeu, elles pourront y avoir accès super facilement vu que on scanne une carte et tout de suite j'ai accès à qui est cette carte, qui est ce personnage, qu'est-ce qu'il fait. Et ceux qui s'en fichent, bah voilà. Mais mettons, t'es dans le métro, même tu peux t'amuser à picorer un petit peu, à lire un petit peu l'histoire de notre jeu, à découvrir qui sont les personnages, tout ça. Ça c'est un des aspects auxquels moi je suis particulièrement sensible dans le jeu.
Ouais, et
dans le projet.
C'est quelque chose sur lequel vous avez mis beaucoup d'efforts dès le départ. C'est-à-dire que c'est déjà le lore est déjà très très développé.
Il y a un narrative designer qui bosse à plein temps, qui ne fait que ça. Il s'appelle Yoshi, salut Yoshi, et il fait un travail vraiment extraordinaire. Il pond à une vitesse folle en plus, et c'est d'une très grande qualité. Super fier de bosser avec lui, puis il fait vraiment un super travail, et c'est chouette de pouvoir aussi échanger directement avec la communauté, parce que l'avantage aussi de ce projet-là, c'est qu'il est ultra participatif. On a un Discord, on a des milliers de joueurs et de joueuses qui échangent régulièrement au quotidien avec nous. Ça permet de leur faire lire aussi nos histoires, d'échanger aussi directement avec Yoshi et tout, et ça c'est cette interaction elle est vraiment géniale.
Et si on arrive en tournoi, on s'est inscrit, donc on a envoyé son deck en version numérique, etc. Comment la vérification est faite qu'on ne vient pas avec d'autres cartes que celles avec lesquelles on s'est inscrit? Ça va prendre un temps fou si on verrait s'il y a des personnes qui vérifient.
Et ben au contraire, ça va être encore plus court. Parce que avant, je rappelle, quand tu jouais à Magic, bah, t'étais obligé déjà, de décrire toi en tant que joueur ou joueuse ta liste de deck. Et quand quelqu'un, un juge venait te la vérifier, il prenait la liste de deck, il était obligé de regarder chaque carte. Et là, je te parle même pas si tu joues avec des faux. Après, s'il y a des faux, c'est encore un autre problème. Il vérifie juste si c'est les bonnes cartes. Nous, comme quand tu ouvres un booster, tu les étales sur la table. Donc le juge ou l'arbitre ou le magasin, le ludicaire, l'étale sur la table. Vu qu'il s'est inscrit avec la liste de deck, elle est déjà dans son application. Donc il va juste avoir besoin de scanner l'entièreté de tes cartes. Et l'application va lui dire si la liste est conforme au deck auquel tu t'es inscrit ou pas. Donc effectivement, c'est une technologie un petit peu de rupture. Ça veut dire que dans les pratiques et les usages, c'est pas ce qui se pratique aujourd'hui, donc j'admets qu'effectivement comme toute pratique nouvelle il faut un petit peu le temps pour s'y adapter, mais une fois que les gens s'y seront adaptés, en fait compte ça sera même plus rapide que le système qu'on connaissait aujourd'hui.
Et par rapport à ce que tu disais justement sur les achats et les impressions possibles, donc en fait ça a effectivement pas mal d'avantages, parce que imaginons j'ai une carte que j'adore, etc., je renverse mon café dessus, enfin des trucs qui peuvent arriver, des drames où je la perds ou je ne sais quoi, on va pouvoir la réimprimer, et tant qu'on a la propriété numérique on peut la réimprimer.
C'est un des gros avantages, c'est-à-dire que là t'auras plus ce risque de ton chien la bouffe ou ton gamin joue avec, il la déchire et c'était une carte qui valait pour toi très cher. Un autre avantage aussi, c'est, on va parler des foils, tu vois, c'est un tout autre sujet, mais alors pour celles et ceux qui ne connaissent pas l'univers des jeux les cartes à collectionner, les cartes folles, c'est les cartes qui brillent un petit peu, voilà. Donc là, généralement, ben, il y a les gens qui sont super fans, il y a des gens qui n'aiment pas, qui s'en foutent, et puis il y a les gens qui détestent ça. Nous, en fait, compte, on a pris l'option dans le jeu de base qui est pas de cartes folles. Par contre, les gens vont trouver des foilers. Les foilers, vous pourrez les attacher à n'importe quelle de votre carte, et quand vous ferez du print on demand, cette carte-là, vous pourrez l'imprimer en foil si vous le souhaitez. Voilà. Donc ça, ça va permettre vraiment, un, que ceux qui n'aiment pas les foils, ben, ils pourront les revendre, et quelque part, ils seront contents parce que ça leur fera de la monnaie d'échange pour acquérir d'autres cartes. Et ceux qui aiment les foils, ils vont pouvoir s'en servir pour foiler les cartes qu'ils ont souhaité de foiler, et pas avoir le côté hyper aléatoire de dire, ah oui, bah, c'est pas ce que je voulais. Là, au moins, ils pourront foiler ce qu'ils veulent. Et une fois qu'ils auront le droit de foiler une carte, ils n'auront pas besoin à chaque fois d'avoir un nouveau foiler. Ils pourront l'imprimer en foil autant de fois qu'ils le souhaitent.
C'est une sorte d'amélioration permanente, mais définitive, quoi.
Voilà, c'est ça.
De sa carte.
Tout à fait.
Et par contre, aussi, ça veut dire que quand une carte est unique, en fait, finalement, c'est la propriété numérique qui est unique, puisqu'elle pourra être imprimée potentiellement plusieurs fois.
Oui, tout à fait. Et ça encore, c'est vraiment l'idée de... En fait, les gens parfois nous disent, mais oui, mais en fait, compte, du coup, c'est un peu bizarre. Ben non, pas plus qu'aujourd'hui à Magic, où tu as les sites de proxy qui existent. Alors les proxys, encore une fois, pour les personnes qui ne savent pas ce que c'est en gros une photocopie,
des impressions non officielles,
voilà, non officielles et tout, mais qui sont légalisées par les éditeurs. Wizard of the Coast, ils sont complètement OK avec ça, sauf que c'est des fausses cartes qui ne valent rien, et c'est déjà le cas. Là, c'est juste rendre en fait tout ce qui existait déjà dans l'univers des TCG hyper accessible, sécurisé, simple et dans une bonne qualité. C'est-à-dire, toi, tes proxys, tu les recevras et tu seras content de jouer avec. Tant que tu joues dans le cercle de la famille, des amis,
non officiel, casual, un tournoi, etc.
Bah, tu fais ce que tu veux et nous, on n'ira pas regarder chez toi. Par contre, effectivement, si tu veux jouer en tournoi, là, il faut être dans les clous, et ça, on le vérifiera.
Et comme l'échange de cartes va forcément passer par le système d'Equinox, est-ce qu'il y aura du coup une commission, quelque chose au passage qui sera prise
Ouais, alors à chaque fois qu'il y a une commission, nous on prendra 5%, c'est ce que prend Card Market sur chaque échange. Je précise bien sûr que si vous êtes amené à échanger une carte à votre voisin, ou si vous lui vendez, bah là on va pas prendre de commission, vous faites ce que vous voulez côte à côte. Si tu veux transférer juste la propriété numérique à quelqu'un, bah tu lui transfères, nous on prend rien dessus.
Oui, mais 5% sur 0, ça fait 0.
Bah voilà, c'est ça.
Très bien, du coup... ça va sortir Altered en août, si je me trompe pas.
C'est ça, ouais.
Et pour le lancement, vous êtes passé par une campagne de financement participatif sur Kickstarter. Bon, les auditeurs et auditrices connaissent un petit peu généralement. Du coup, la campagne est en cours, là, au moment où on enregistre l'interview. Il reste d'ailleurs très peu de jours.
Ouais, 6-7 jours encore.
6-7 jours, ouais, ça a commencé fin janvier, début février. Aujourd'hui, là, au moment où on parle, vous avez passé les... 3 400 000 dollars, je crois, c'est ça?
Peut-être, oui. J'ai pas regardé. Je te crois sur parole.
Donc, un assez gros succès.
Ouais.
Je suis la campagne d'assez près. J'ai quelques questions, remarques sur cette campagne. Premièrement, j'ai l'impression aussi qu'il y a eu beaucoup de gens dans cette campagne qui venaient du jeu de plateau, enfin, du jeu de société un peu plus standard, et qui ont été un peu du coup perturbés par le fait que ce soit un jeu de cartes à collectionner, et que du coup tout ce qui était stretch goal, récompense qu'on peut proposer dans ce genre de campagne Kickstarter était plus axé sur justement la valorisation des paquets de cartes, des boosters, l'intérêt des boosters, plutôt que des petits à côté qu'on peut avoir dans les campagnes type zombicide où on va avoir beaucoup de matos en plus, des figurines, etc. Là, c'était vraiment axé sur une campagne jeu de cartes à collectionner. Est-ce que t'as senti aussi que il y avait une petite, pour un certain public justement qui suivait Altered, qui venait plutôt, qui t'a peut-être suivi depuis Libellude ou voilà, qui sont plutôt des jeux de plateau, qu'il y a eu une petite incompréhension sur la campagne?
Ouais, mais alors c'est tout à fait normal, et effectivement la campagne a été conçue, c'est vrai qu'avant tout pour les joueurs de jeux de cartes à collectionner, et eux ils ce qu'ils veulent c'est de la valeur pour leurs cartes, et il faut savoir qu'aujourd'hui entre un petit objet en plastique qui va pas prendre de la valeur, qui va même en perdre, bah avoir un peu plus de cartes rares ou uniques ou autres, bah finalement quand tu joues à un jeu de cartes, ta valeur elle est ici. Ça c'est le premier point, et puis le second point aussi c'est que nous Moi, tu vois, concevoir une campagne Kickstarter, j'en avais jamais fait auparavant. Et en fait, il y a un truc dont tu te rends compte, c'est que c'est hyper vertigineux de pouvoir promettre ce que tu veux. En fait, t'as une feuille blanche et tu inscris ce que tu veux. Tu veux dire, bah demain, je vous offre ci, puis un token, puis un porte-clé et tout ce que tu veux. Et t'arrives à la fin de ta campagne, tu dis, bon, maintenant, comment je fais ça? Alors, le porte-clé, c'est dans telle usine, ça, c'est dans telle autre. Ah, puis ça, j'avais pas fait de devis. Ah, puis, et à la fin, tu te retrouves avec un truc où tu dis, bah, il y a 2 ans de retard. Nous, ce qu'on veut, c'est dès que la campagne se termine, ça part en prod. Là,
c'est livraison en juillet. Ouais.
Voilà, et ça, ça nécessite aussi d'avoir une faisabilité, une fluidité, parce que c'est vrai que si tu promets des trucs et qu'à la fin, bah, tu ne fais que mentir aux gens en disant, bah voilà, vous devez recevoir le truc dans un an, ou finalement, ou trois ans, t'es encore en train d'attendre ton truc. Alors, je dis pas que nous, il nous arrivera pas de tuiles, tu vois. Il y a toujours des événements qui ne dépendent pas de toi, qui peuvent faire que ton jeu a du retard. Et je ne dis pas encore une fois que ça ne nous arrivera pas. Je dis qu'on a essayé de prendre tous les garde-fous en amont pour être en mesure de livrer le plus rapidement possible les gens qui nous avaient fait confiance. Voilà.
Et sur l'impression des cartes, ça sera en un même lieu, une même usine où il y aura plusieurs sites qui sont équipés des mêmes machines qui vont pouvoir reproduire dans le monde, hein, qui vont pouvoir reproduire la même qualité de cartes.
Alors en fait, comme dans tous les projets un petit peu innovants, déjà t'essayes de stabiliser un modèle de base. Donc voilà, donc tout sera basé à Cartamundi, qui est l'usine mère historique de Cartamundi. Et après, l'idée, c'est effectivement avec le jeu, le succès du jeu, c'est de décliner ça dans différents territoires, États-Unis ou autres. Mais avant tout, on veut être sûr de pouvoir maîtriser notre production, maîtriser notre modèle, parce que c'est quelque chose de très complexe. Comme vous l'avez vu, on n'a pas que un point innovant, on en a beaucoup qui sont interconnectés les uns les autres. Et ça, on veut déjà s'assurer qu'ils puissent marcher, qu'ils soient scalables. Et après, effectivement, une fois qu'on sait que ça marche et que c'est éprouvé, on duplique le modèle sur d'autres territoires. Et ça, effectivement, on n'est plus sur du temps industriel, donc ça se fait pas en deux mois. Mais après, je sais que les gens seront capables de nous suivre, parce que nous, de toute façon, on sera toujours transparent sur ce qu'on fait. Et voilà.
En parlant de points innovants, effectivement, il y a beaucoup de points innovants et très intéressants dans Alterd. Est-ce que t'as pas peur d'être peut-être, est-ce que vous avez pas peur d'être peut-être un peu trop justement en avance sur le temps? J'ai l'impression que le TCG, les jeux de cartes à collectionner, reviennent fort en ce moment. Là, on voit au festival, il y a un énorme stand Lorcana, il y a un énorme stand pour Star Wars Unlimited, même Pokémon a un assez gros stand. Donc, on sent qu'il y a un truc dans l'air du temps sur le TCG, mais néanmoins. On est sur des modèles de TCG plus classiques. Vous arrivez avec quelque chose d'un peu disruptif, si on peut employer ce mot-là. Mais est-ce que t'as pas peur du coup d'arriver, d'être en fait celui qui va arriver avec l'innovation qui est super intéressante, que tout le monde va copier après, mais qui est le premier et qui est l'incompris du coup sur ça?
Alors c'est un risque. Après, le principal garde-fou, c'est que tout ce qu'on apporte comme innovation est lié à l'application, et l'application elle n'est pas du tout nécessaire pour jouer. Donc aujourd'hui, tu peux ouvrir ton staster, tu joues, et là, t'as zéro complexité. Donc après, si t'as envie de picorer des à côté, tu pourras le faire, mais rien ne t'y oblige. Bon, s'il vaut mieux scanner ses cartes, parce que quand même, tes cartes ont de la valeur, voilà. Mais à part ça, et ça sera super simple, hein, tout le reste, j'ai envie de te dire, c'est facultatif. Si t'as pas envie de faire des changes, si t'as pas envie d'avoir accès au lore de ta carte, si t'as pas envie de faire de print on demand, si t'as pas, tu le consommes, comme finalement un modèle classique. Tu vois, le print on demand, c'est si t'as envie d'essayer. Sinon, tu échanges avec ton frangin, avec ta femme, avec tes amis, une carte, comme dans l'ancien temps, et ça marche tout aussi bien. T'es pas obligé de pour jouer et prendre du plaisir d'utiliser toutes les innovations qu'on apporte, sachant que les cartes uniques, là de toute façon c'est du texte, tu les auras, il n'y a pas de complexité avec ça. Donc l'ADN du produit de base, en fait, il est ultra simple, et même là on apporte déjà des nouveautés.
Et comment du coup donc il y a cette nouveauté là, mais comment t'arrives à te faire une place dans ce milieu là qui est quand même assez compliqué, hein, faut pas, enfin il y a pas 40 TCG qui peuvent sortir tous les ans et fonctionner en face justement de grosses productions qui ont des licences fortes type Star Wars, Disney, etc. Enfin, dans votre tête, comment vous allez traverser un petit peu cette concurrence-là qui est quand même assez forte?
C'est une bonne question, et souvent, tu vois, même j'avais une discussion avec un membre de l'équipe hier, il me parlait de concurrence avec Star Wars ou avec Lorcana et tout. Et en fait, moi, c'est pas du tout ma philosophie. Je me dis pas, je suis en concurrence avec un tel ou un tel. Ils sont dans ce marché-là. Moi, je me dis, on essaye de proposer une idée, on essaye d'aller au bout de ce que nous on a envie de proposer, et à la fin, in fine, c'est les joueurs, c'est les joueuses qui choisiront à quoi ils ont envie de jouer. Si notre proposition elle est trop complexe, elle est pas comprise, elle est trop, je sais, enfin, et que finalement c'est Lorcana et Star Wars qui reste à la fin, moi j'ai aucun souci avec ça. C'est à dire que nous on aura fait de notre mieux, le public choisit, et je j'irai jamais dire que les gens sont cons et qu'ils ont choisi le mauvais produit, le mauvais projet. Pour moi, les joueurs et les joueuses, ils jouent à ce qu'ils ont envie de jouer. Et la seule vérité qui compte, au final, c'est la vie des gens. Donc, moi, il n'y a pas de, je vis pas dans le monde des bisounours. Je suis hyper conscient que c'est un marché qui est ultra compliqué, que c'est le pire marché de la terre qui soit dans le jeu.
Parce que pour les auditrices et auditeurs qui ne jouent pas à DTG, c'est des jeux qui demandent quand même aux joueuses et aux joueurs un investissement en temps, en argent, en qui est assez conséquent. C'est quelque chose dans lequel on se plonge un petit peu corps et âme, parce que on peut toujours jouer un petit peu. Comme ça en mode
familial,
mais c'est quand même des jeux qui, voilà, où si on veut suivre, il faut toujours
bien sûr, faut proposer des choses. Puis on va pas se mentir, si on regarde historiquement en 30 ans le cimetière des jeux de cartes à collectionner, mais il est blindé, il y a plus de place. Et les survivants sont très peu nombreux. Donc oui, en conscience, c'est quelque chose qui est super risqué. Mais encore une fois, moi, quand je me lance dans un projet, je suis pas là pour mesurer le risque. Enfin, je suis pas inconscient. Je dis juste, on a envie, on a une vision, on a un truc à proposer, on y croit. Encore une fois, je faisais comme ça déjà dans le jeu de société. Il y a des fois où ça marche, des fois où ça marche pas. Et encore une fois, pour moi, l'échec, c'est pas quelque chose de grave. Ça fait partie des projets. Il y en a qui marchent et il y en a qui marchent pas. Je suis hyper OK avec ça. Et voilà. Il y a un côté très français, parfois, de pointer du doigt l'échec. Moi, je veux dire, déjà, quand on fait des choses, bah, c'est chouette, c'est cool. Et puis on verra de quoi demain sera fait. Mais effectivement, c'est un vrai challenge.
Non, mais il y a juste une particularité aussi dans le gameplay d'Altern qu'on n'a pas parlé, mais peut-être c'est une évidence, c'est que c'est pas un jeu d'affrontement direct, en tout cas, entre les deux joueurs qui vont être de part et d'autre de la table. Et donc, par rapport à d'autres TCG plus classiques ou Star Wars Unlimited, par exemple, dont on parlait, bah, si on aime bien se foutre sur la tête l'un et l'autre, bah, vaut mieux Star Wars. Là, on est sur un mode un peu de course. En tout cas, et on peut même finir, alors je me souviens plus comment c'est départagé, mais on peut même finir à égalité puisqu'on peut se rejoindre ces deux petits tokens en même temps.
Mais à ce moment-là, on se fout sur la gueule.
Et on refait.
Ouais, rien pour se départager à ce moment-là.
On rentre sur une arène où je ne sais plus comment ça se passe, voilà. Mais c'est quand même de l'affrontement indirect. On peut prendre du plaisir, on va dire, à faire avancer ces petits tokens sans perdre des points de vie. Il y a pas de points de vie.
Ce qu'on voulait, tu l'as de base, tu fais bien de le souligner, c'était de créer un jeu hyper accessible. Et si tu veux qu'il soit accessible, il faut qu'il soit simple et compréhensible, et il faut aussi que le plus grand public possible, le spectre le plus large de joueurs et de joueuses, se retrouve un petit peu dans notre univers et dans ce qu'on a à proposer. Et c'est évident qu'aujourd'hui, t'as beaucoup de jeux de cartes à collectionner qui laissaient sur le carreau beaucoup de joueurs et beaucoup de joueuses qui ne se retrouvaient pas ni dans le gameplay, ni dans les objectifs, ni dans l'univers. Donc nous, c'était vraiment cette volonté d'inclure le plus de monde possible dans ce jeu.
Ouais, il y a aussi un mécanisme avec des héros. En fait, chaque deck fonctionne autour d'un héros. Il va y en avoir plein de différents, et c'est ça aussi qui va apporter un peu les styles de jeu. Autant comme dans beaucoup, il y a des différentes factions, différentes couleurs qui vont avoir un style de jeu particulier. Mais en plus de ça, le deck sera composé autour d'un héros qui va amener aussi un style de jeu propre à chaque héros.
Ouais, il y a 6 starter decks, donc il y aura un héros ainsi que son compagnon, un héros ou héroïne dedans. Et il y a en tout 18 héros différents, donc qui vont teinter un petit peu ta façon de jouer telle ou telle faction. Voilà. Et forcément, on peut imaginer que dans des extensions futures, on pourrait être amené à rajouter des cartes héros ou héroïnes en plus, pour encore plus varier les plaisirs de jeu.
Il y aura 18 couleurs de héros différentes ou
non? Il y a 6 couleurs.
Il y a 6 couleurs, voilà.
Et il y a 3 cartes héros par faction.
Ah voilà, c'est ça. Et est-ce que 2 factions de même couleur peuvent s'affronter? 2 héros différents mais de la même couleur pourront s'affronter. On pourra organiser
bien
des matchs.
Ouais, bien sûr, des matchups, il y a aucun souci.
OK.
On disait un peu avant, je parlais un petit peu de l'incompréhension de certains qui suivaient la campagne Kickstarter. Néanmoins, c'est une campagne qui a un succès quand même non négligeable, hein, plus de 3 millions 4. D'ailleurs, vous avez posté il y a très peu de temps là que c'était la campagne Kickstarter de jeux de cartes à collectionner qui avait fait le plus beau chiffre. Donc ça, c'est déjà un beau succès. Félicitations pour ça.
Merci.
Par contre, on sait que Kickstarter, c'est qu'une partie des joueurs et du public. Hein, c'est quand même les plus chevronnés, les fans un petit peu hardcore et qui veulent suivre un peu les choses de près. Donc ça arrive pour eux en juillet. Et après, en août, il y a la sortie officielle. Et du coup, qu'est-ce qui est prévu un peu pour la sortie officielle? Enfin, comment ça va se dérouler? Quel est un peu le programme des premiers mois et des premières années pour justement bien lancer le jeu et trouver votre public?
Alors l'idée, c'est bien sûr de proposer du jeu organisé directement dans les boutiques. Donc ça, on va l'annoncer à partir d'avril, ce programme-là. Pendant les 6 premiers mois, ça va être plutôt du jeu un peu plus casual, donc plutôt dans le cercle des boutiques. Et après, il y aura une scène un peu plus compétitive, plus large qu'on va ouvrir. Mais on voulait vraiment mettre les boutiques au centre de l'expérience de jeu au début. Et puis en plus, c'est une période où les gens commencent à découvrir à peine le jeu. Ça sert à rien tout de suite de vouloir faire des concours intergalactiques de la mort qui tue, alors que les gens apprennent à peine à découvrir le jeu. Donc voilà, tout un système de jeu organisé. Et là, bon, je sais pas quand sera diffusé le podcast, mais je peux vous l'annoncer parce que on l'annoncera d'ici la
fin de la campagne.
La fin de la campagne. Ce qu'on va annoncer, c'est de vouloir développer le fait de pouvoir jouer avec ces decks sur Board Game Arena. Aujourd'hui, on ne peut jouer uniquement que les starter decks. À terme, ce qu'on veut, c'est tu achètes tes decks, enfin tes boosters en boutique, tu construis tes jeux avec tes cartes, tout ça, tu peux y jouer avec tes amis, et si t'as envie, vu que ces cartes sont aussi liées à ton compte, tu peux jouer juste pour t'entraîner, parce qu'on veut pas développer la compétition sur Board Game Arena, mais tu vas pouvoir jouer avec tes amis, parce que parfois t'as pas de boutique près de chez toi, ou alors il est tard le soir, t'as envie de faire une petite partie, tu te prépares pour un tournoi dans ta boutique du coin et tu te dis bah oui mais je voudrais tester le deck, bah pouf, t'en profites, et ça serait une des premières fois que t'aurais vraiment cette jonction entre l'univers du physique et du digital sans avoir la double peine. Et la double peine, c'est à chaque fois tu dois racheter des boosters sur le digital alors que t'as déjà les cartes en physique. Et ça, moi, je sais que c'est un truc qui m'énerve un petit peu parce que j'ai l'impression que je paye deux fois mes cartes.
Mais j'allais le dire, c'est, je pense, enfin, ça a l'air d'être une attente assez forte des gens qui participent aussi à la campagne d'Altered, parce que finalement, on se dit, bah, si on a une collection comme ça de manière numérique, ça pourrait être très intéressant de pouvoir l'utiliser de manière numérique aussi. Et pourquoi pas, enfin, je sais pas si c'est dans les plans, mais pourquoi pas même l'inverse, vu qu'il y a l'histoire de la possibilité d'imprimer des cartes. Il y en a qui se disent, est-ce qu'on pourrait pas directement acheter des boosters en numérique, avoir des cartes, et puis si je veux, je les imprime, sinon je les ai dans ma collection.
Bah là non, parce qu'encore une fois, moi je veux privilégier les boutiques ludicaires. C'est chez elles que le jeu organisé va se développer. C'est elles qui peuvent permettre de faire vivre le projet. Et moi, j'ai pas envie de leur ôter le pain de la bouche et de me dire on joue sur les deux tableaux. Donc non, j'ai vraiment envie que les gens aillent en boutique, achètent leurs cartes en boutique, même s'ils n'y jouent pas. Et après, ça leur permettra de jouer tant qu'elles veulent. Et je pense que, et moi, j'en fais partie, tu vois, je fais partie de ces gens qui n'ont plus forcément le temps de, bah, d'aller en boutique parce que j'ai mon temps et, bah, comme plein de gens, bah, je vieillis, les vies de famille, les ceci, les cela, on n'a pas forcément le temps. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, acheter des cartes juste pour la collection, je me dis, c'est un petit peu dommage. Alors que si on me disait, bah, tiens, Régis, tu peux y jouer de temps en temps, je me dis, ah, c'est cool, ces cartes que j'ai là. Et puis, du coup, ça va me pousser de temps en temps, dire, ah là, j'aime vraiment bien ce deck, il est vraiment, allez, je vais peut-être me faire un petit tournoi, parce que c'est quand même sympa.
Ça a l'air de bien gagner sur ce que je teste en ligne.
Et je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire. Et il y a plein de choses à remonter, c'est comme les tournois, tu vois. J'en parlais, à des joueuses. Bon, en l'occurrence, c'était des joueuses de l'Orcana. Parce que je pense qu'il y a aussi un bon public féminin, parce que c'est une ère Disney, il y a le côté rassurant et tout. Et je me disais, mais pourquoi vous allez pas en tournoi? C'est vrai, parce que je me dis, il y a tout un public féminin qui parle de l'Orcana, qui joue et tout. Et en tournoi, tu vois quasiment que des marques. J'en parlais aussi à Marie Grandjeu, Marie Jordana, pardon. Je dis à chaque fois Grandjeu, Marie Jordana. Je sais pas pourquoi, c'est GRD à chaque fois. Voilà. Bref, et on en parlait ensemble. Et c'est vrai que on est arrivé à cette conclusion que beaucoup de femmes ont peur d'aller en tournoi parce que elles se disent à chaque fois, je vais me faire juger par un mec.
Ouais.
Soit et ça va être le côté paternaliste, dire il faut que tu joues comme ci, il faut que tu joues comme... ah t'as mal joué, ah ceci. Et c'est vrai que ça c'est insupportable. Alors que développer le mode je joue à deux, bah, je pense que pour tout un public qui est à qui la compétition peut faire peur, le jugement de l'autre peut faire peur, bah, le fait d'y aller à deux avec un partenaire, peu importe hein, masculin ou féminin, bah, ça a le côté rassurant de dire j'y vais à deux, je vais partager cette expérience avec quelqu'un en qui j'ai confiance et ça va être le côté rassurant. Voilà.
Très bien.
Moi j'avais une question sur les langages qui seront disponibles et les pays dans lesquels le jeu va être disponible, donc à partir d'août et puis dans le plan de déploiement.
Donc là on lance le jeu en 5 langues, anglais, français, italien, allemand et espagnol. Pourquoi ? Parce qu'encore une fois on s'est aperçu que quand tu ne lances pas un jeu de cartes à collectionner dans la langue du pays, c'est très dur après de refaire un retard parce que les gens se disent oui mais j'ai raté le début, bon bah ils sont passés à autre chose. Donc certes c'est un très gros investissement parce que forcément normalement pour localiser un pays il faut des très 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 gros volumes. Forcément nous on débute, on les a pas, bah, c'est un sacrifice qu'on fait, mais en se disant que on a envie de partir sur les meilleures bases possibles pour laisser les meilleures chances possibles au jeu. Voilà.
Et les pays ?
Alors partout dans le monde, vraiment, c'est toute l'Europe, États-Unis, Canada. Il y aura aussi du Chili, il y a eu du Brésil, il y a des pays en Asie, Australie, voilà. Donc il y a plein de pays. C'est aussi la force, je vous le disais tout à l'heure, de bosser avec Asmodée. Ouais. C'est un partenaire mondial et on peut dès le début, quand on lance un projet, avoir une vision monde et pas se dire aujourd'hui je lance que sur le territoire français, parce que encore une fois le jeu de cartes à collectionner, ça demande énormément de ressources. Même si on n'avait pas la partie digitale, il faut créer les cartes, c'est un set qui sort tous les X mois, il y a des illustrations, tout ça, donc c'est à minimum, il faut quand même du monde quoi, et que sur le marché français ça serait compliqué de le faire tenir.
Si je me trompe pas, les prochains sets c'est déjà prévu. Enfin, du coup, il y aura pas de nouveaux sets sur l'année 2024. C'est la sortie.
Ouais.
Et à partir de 2025, c'est un set tous les 4 mois.
C'est ça. Ouais, c'est ça.
Très bien. Bah, écoute, Régis, je crois qu'on arrive vers la fin de cette interview. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, passer un message?
Merci pour l'invitation. C'était un vrai plaisir, en plus, de partager ce moment-là avec vous sur le Festival de Cannes. C'est un festival que j'affectionne vraiment particulièrement. J'ai plein de chouettes souvenirs, c'est plein de rencontres. C'est vraiment le moment où on sort un peu de notre tour d'ivoire et on peut échanger directement avec les gens, avec le public. Et moi, c'est un moment, même je suis plutôt un introverti, c'est un moment que j'aime beaucoup.
Ouais, on apprécie aussi pouvoir faire ces interviews sur le festival, c'est toujours très agréable.
Ouais, je pourrais même dire que t'es un petit peu modeste, parce qu'on peut dire que le stand d'Alter ne désemplit pas, hein. Moi, j'ai dû attendre pour faire une partie et il y a quand même 12 duels en permanence qui sont proposés et il y a la queue avant de pouvoir. Ça marche bien.
Malgré le fait qu'il soit un petit peu caché par rapport à, il est un petit peu dans un recoin.
On nous a punis. On nous a mis au fond du fond, mais bon, on fait avec.
Très bien.
Bien, et ben merci. Chères auditrices, chers auditeurs, si cette interview vous a plu, partagez-la sur vos réseaux sociaux favoris. Vous pouvez également nous aider en nous faisant un don. Pour cela, vous trouverez toutes les informations utiles sur la page d'accueil de notre site podcast.proxy-jeu.fr, proxy avec un i et jeu avec un x. On se retrouve très vite sur Proxy Jeu pour une autre interview ou un autre format. À bientôt et surtout,
jouez bien.